Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Ce soir, on est venu écouter Philippe Quéré. Donc, 16 ans de vie de collaborateur parlementaire l'ont amené à publier différents livres, notamment un livre qui est très intéressant aux éditions de l'Ours. Je le rappelle, il n'est pas là ce soir, mais je peux le prêter à qui le veut. La force possible du Parlement, qui montre que des parlementaires peuvent défendre le Parlement et les droits du Parlement et la capacité que le Parlement a imposé finalement sa voix ou à réclamer des comptes à l'exécutif, même dans la Ve République. Ça aurait sans doute étonné Raymond Badiou. Mais nous le voyons plus précisément pour ce livre, après je te laisse la parole Philippe, hein, qui est en vente dans cette magnifique librairie Flouri, et qui est une explication sur la manière dont les citoyens peuvent se servir de leurs députés en les accompagnant, ou la manière dont l'Assemblée nationale peut être la maison du peuple. Et donc ça, c'est, comme dirait Bernard Seden, c'est compliqué, mais c'est intéressant et riche, parce que ça peut montrer effectivement que l'engagement citoyen peut passer par un engagement aux côtés des députés. Bon, mais je te laisse la parole parce que tu as pour mission ce soir de sauver les institutions et la démocratie. Donc, on voudrait savoir comment tu t'y prends.
Bon, bonsoir, merci de l'invitation et de l'accueil. Donc, je ne répondrai pas à la question. C'est la première promesse. Ce ne sera ni un cours ni magistral. Deuxième promesse. Après, non, plutôt, effectivement, comme le disait Hugues, plutôt un retour d'expérience de notre travail. Moi, je n'ai pas fait d'études. Voilà. De sciences politiques, de droit, choses comme ça, mais j'ai découvert le fonctionnement du Parlement dans sa pratique au quotidien. Donc, effectivement, avec près de Dominique Rimbourg, qui a été un député socialiste de 2007 à 2017, et puis auprès de Boris Vallaud depuis 2017. Donc, en ayant connu des situations, on va dire, de l'ancien monde, quand il y avait une sorte de duopole, et en l'ayant connu dans l'opposition et dans la majorité, et puis en ayant vu aussi des évolutions très fortes depuis ces 7 dernières années, où les changements politiques ont aussi en fait mis l'institution sous tension et ont eu un impact, ça c'est un sujet qu'on pourra justement discuter, sur on dit même la qualité de notre démocratie et l'état de notre démocratie. Donc je ne vais probablement pas vous apprendre grand-chose dans les petits points que je vais vous souligner ce soir, hein, vous me direz. Tout ça est ouvert, enfin la discussion en direct, hein, s'il y a des questions, des remarques, peut-être pas obligé d'attendre que j'ai fini de parler, parce que je peux aussi être bavard. Mais peut-être vous livrer quelques donc, retours d'expérience sur ce qui m'est apparu à l'usage comme des points extrêmement importants. Donc, s'agissant de la place de l'Assemblée nationale dans nos institutions, et effectivement, en considérant que celle-ci est quand même le point d'entrée logique pour les citoyennes et citoyens dans l'élaboration de normes nationales, donc de la loi. On a eu l'expérience, par exemple, il y a quelques années, d'une convention citoyenne pour le climat, dont je parlerai à la toute fin. L'une des difficultés que posait ce dispositif à mes yeux, c'est qu'il prétendait être une entrée des citoyens dans le processus législatif, mais aux côtés de l'exécutif. Et à la main de l'exécutif, et non pas dans un rapport premier avec le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale étant le peuple assemblé. Donc quelques points qui me semblent être vraiment importants à voir dans la réalité quotidienne du fonctionnement de cette institution et de ce que ça dit du déséquilibre ou de l'équilibre de nos institutions et de comment ça penche aujourd'hui. Sur des caractéristiques que réalise l'Assemblée nationale, le Parlement en général, mais l'Assemblée plus particulièrement dans l'organisation de nos pouvoirs. Déjà, c'est donc le sujet quand même de l'opposer, entre guillemets, au pouvoir exécutif. Le Parlement, c'est le lieu du pluralisme. On a en tête le discours de beaucoup de nos présidents de la République, même de gauche, qui on peut dire le Parlement c'est lent, le Parlement, enfin là, si seulement on pouvait aller plus vite, des choses comme ça. Voyons quand même ce que prend en charge le Parlement, l'Assemblée nationale, dans le cycle de la production de nos normes. C'est le lieu du pluralisme. Par définition, un gouvernement n'a pas un pluralisme particulier à organiser, même si, alors là aussi, pareil, la situation actuelle est totalement atypique et met l'ensemble de nos institutions sous tension, mais de manière plus classique, le Parlement va prendre ça en part. Vous évoquiez à l'instant la question des votes. Enfin, vous dites, tiens, le vote, est-ce qu'on a la trace du vote de tel député à tel moment? Alors, tous les votes ne sont pas publics. Mais d'une manière générale, le Parlement et l'Assemblée, plus particulièrement, c'est le lieu de ce qu'on appelle la publicité des débats. L'Assemblée, c'est public. Vous pouvez, chaque citoyenne, chaque citoyen peut savoir ce qui s'y dit. Il y a un accès en direct, si vous allez sur le site de l'Assemblée, puis il y a tout ce qui est compte-rendu, archives. Donc c'est le lieu de la publicité. Les débats d'un Conseil des ministres, vous ne les connaissez pas. Les arbitrages internes à un gouvernement, vous n'y aurez pas accès. Donc bien évidemment que l'Assemblée, ça paraît par moments être le foutoir, mais encore une fois, c'est là qu'il y a le pluralisme, c'est pas dans le gouvernement, et c'est public, ça ne l'est pas dans le pouvoir exécutif. Donc on donne à voir cette pluralité. Donc c'est ce qu'on appelle la publicité des débats, qui est un principe extrêmement ancien dans notre organisation institutionnelle. Ce qui vaut aussi du coup pour les votes. Alors pas pour tous les types de votes, pas à tout moment, donc il faudrait voir quels ont été les votes dont vous recherchez la trace. Aujourd'hui, quantitativement, la plupart des votes, en fait, ne sont pas publics. Vous savez, quand vous les voyez, les députés, ils vont lever la main. Il y a plusieurs méthodes de vote. La plupart des votes, quand on va examiner un texte, il y a plein d'amendements intermédiaires et tout ça. Pour aller vite, le vote se fait à main levée. Alors, le vote à main levée, on va savoir si telle disposition a été adoptée ou non. Il n'y aura pas la trace écrite de qui a voté quoi. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle un scrutin public. Donc là, on va perdre la trace de qui a voté quoi sur ces scrutins-là. Par contre, à tout moment, tout groupe parlementaire, s'il estime qu'il y a un enjeu particulier sur un vote, peut demander un scrutin public. Il est de droit. Et dans ce cas-là, le scrutin public, ça va se faire avec les petits boutons que les députés ont à leur disposition sur leur pupitre, fait à leur place. Et là, vous aurez la restitution intégrale de qui était là, qui a voté, qu'est-ce qu'ils ont voté, et ainsi de suite. Donc là, le scrutin, il est public et on va garder la trace. Donc, le principe de la publicité des débats, ce n'est pas le cas du côté du gouvernement, donc ça prend plus de temps, il y a du pluralisme. On voit les antagonismes qu'on ne voit pas du côté du gouvernement, et on fait vivre cette pluralité. Le Parlement, il va assurer par intermédiaire de vos députés, on vous parliez d'un député en l'occurrence, qui s'est fatigué de ses allers-retours. Les députés, ils ont une vie pendulaire. Ils vont passer la moitié de leur vie au Palais Bourbon et la moitié de leur vie en circonscription. Donc il y a quelques cas de figure, il y a les franciliens qui d'un coup de métro, d'un coup de RER font des allers-retours dans la journée, donc c'est un mode d'exercice du mandat assez atypique par rapport à tous les députés provinciaux. Puis les provinciaux, il y a celui qui va débarquer du train, alors certes auprès de près de 5 heures de train, mais qui va rester sur Toulouse, et puis celui qui va devoir prendre sa voiture et puis avoir une circonscription, vous voyez, 200 communes rurales, des choses comme ça. Ça fait des modalités d'exercice du mandat extrêmement différents. Il y a encore un dernier cas de figure, c'est les ultramarins, qui eux vont adopter un rythme pendulaire, mais à la semaine. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire chaque semaine aller-retour, ils vont passer quelques semaines à Paris et quelques semaines en circonscription, ce qui va donner lieu à des règles différentes sur l'obligation de présence. Les députés ultramarins ont des règles d'obligation de présence différenciées par rapport aux autres députés. Et je dis ça parce que du coup, les députés, alors on parlera du nombre de députés, il y en a trop, il y a eu une proposition il y a quelques années de dire il y en a trop, il faut réduire, on pourra évoquer ça. C'est aussi la proximité. Il y a une forme de disponibilité des députés, le pouvoir législatif, il n'est pas que à Paris. En réalité, le pouvoir législatif, il se balade auprès de chez vous, il y a une permanence souvent, il y a une disponibilité. Donc là aussi, c'est une fonction qu'assure, que prend en charge le Parlement, que n'assure pas le pouvoir exécutif. L'ouverture. L'Assemblée nationale, c'est plus une auberge espagnole qu'une tour d'ivoire. En réalité, alors j'évoquais à l'instant le fait que les députés sont présents sur leur territoire, donc ils rencontrent des gens en permanence, qui prennent rendez-vous, ils vont dans les associations, des choses comme ça. Puis dans le travail parlementaire qui s'effectue, cette fois-ci le travail législatif qui est mené à l'Assemblée, une part importante du temps que du député va être consacrée à des auditions. C'est-à-dire que les députés ne s'enferment pas entre eux pour méditer, à se dire quel est l'intérêt général, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait dans cette loi. Très concrètement, vous parliez tout à l'heure, tu parlais de l'épouse d'un camarade qui était syndicaliste. Voilà, les corps intermédiaires de notre société sont en dialogue permanent avec le pouvoir législatif dans des travaux d'audition. Donc c'est vrai des associations, des syndicats, mais c'est vrai des chercheurs, c'est vrai des collectifs de citoyens, des collectifs d'usagers ou des choses comme ça. Donc voilà, donc il y a ce travail d'interaction permanente, de porosité avec la société. Donc voilà quelques grandes caractéristiques. Je les pointe parce que en creux, vous voyez à quel point le pouvoir exécutif n'est pas dans la même structuration. Donc il y a une prise en charge par le législatif aussi de toutes ces dimensions-là, et avec des moyens, on l'évoquera, qui sont quand même qui sont bien réduits. Et le pouvoir législatif, il fonctionne ainsi pour réaliser certaines missions. Alors si, enfin, je vais rien vous apprendre, mais qui vont consister, on l'a évoqué, à l'élaboration de la loi, quand bien même l'initiative de la loi est essentiellement du côté du pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif va énormément travailler les projets de loi du gouvernement. Mais après, il y a d'autres fonctions. Et là, c'est pareil, à l'usage qui m'apparaissent, et on les voit, enfin, dès le collège, nos enfants, et nous-mêmes, on a appris la séparation des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs et tout ça. Très concrètement, quand on voit fonctionner nos institutions, on se rend compte que c'est quelque chose d'extrêmement important. Là, on pourra citer des moments dans notre vie démocratique de ces dernières années où la question de l'équilibre et du contrôle des pouvoirs a été extrêmement importante. On a connu la crise du Covid il y a quelques années, où tout d'un coup, un régime juridique d'exception a été créé ex nihilo pour pouvoir faire face à cette situation. Alors certes, il y avait une situation tout à fait particulière, mais on a créé un état d'urgence sanitaire sans même rentrer, sans utiliser un cadre préexistant qui était, il y a un état d'urgence qui est disponible dans notre droit, alors qu'il y a une histoire qui date de la guerre d'Algérie, mais qui était ressortie très momentanément au moment des événements de Nouvelle-Calédonie, mais qui a été ressortie beaucoup plus longuement il y a quelques années au moment des attentats terroristes en France. Le moment où le gouvernement a, c'était François Hollande, le président de la République, a réutilisé l'état d'urgence, alors il a été totalement nettoyé, c'est-à-dire qu'il, comme le dispositif avait une histoire, il traînait dans notre droit, les députés socialistes de l'époque, au moment où il a été réutilisé, l'ont nettoyé, notamment, par exemple, il y avait encore de la justice militaire, des tribunaux militaires qui traînaient là-dedans, donc on a sorti tout ça. Mais au même moment où le président de la République, très légalement, a eu recours à cet état d'urgence, les députés socialistes, alors majoritaires, ont considéré qu'on était quand même dans une situation extrêmement tendu, très compliqué. Ils n'ont pas contesté le fait que le gouvernement ait recours, parce qu'il y avait besoin d'une promulgation. Après, au bout de 12 jours, il fallait que le Parlement valide et proroge la continuité du recours à cet état juridique d'exception. Par contre, ils ont décidé de mettre en place un contrôle parlementaire permanent du recours à cet état d'urgence. C'est-à-dire qu'il a des députés donc, d'une majorité, ont dit à leur exécutif, certes, nous t'accordons, nous considérons qu'effectivement la situation est tellement grave que l'état d'urgence, en gros, il va permettre de transférer à l'autorité administrative certaines prérogatives judiciaires. C'est-à-dire que les préfets ont eu le droit de promulguer des assignations à résidence, donc des limitations de liberté très fortes pour certaines personnes, des limitations de droits de manifestation, des droits de fouille, des choses comme ça, qui normalement relèvent de la justice, ont été transférées à l'autorité administrative. Donc, c'est un peu ça la logique de l'état d'urgence. Le pouvoir législatif, à ce moment-là, a dit, certes, validons momentanément cette disposition, par contre, on va contrôler l'usage qui va être fait par le pouvoir administratif de ces prérogatives. Et donc, il y a eu un contrôle. Pourquoi je dis ça? C'est que, là, c'est un exemple relativement récent, il y a une petite dizaine d'années de ce choix-là, mais ça suppose, à ce moment-là, d'avoir des députés qui, certes, sont d'une majorité, donc soutiennent politiquement un gouvernement, mais vont être capables en même temps de faire jouer les prérogatives de leur institution et d'aller dans une tension réelle, puisque ça s'est joué dans une véritable tension, avec l'exécutif sur un sujet régalien, éminemment régalien. On est sur de la lutte antiterroriste, on est dans une période d'attentats terroristes. Et je souligne ce point parce que la question de la sociologie des députés est importante. Parce que là, il vous faut des députés qui sont en capacité de tenir tête à leur propre gouvernement, à leur propre exécutif. Quand même, ils le soutiennent politiquement. Et on pourra évoquer le moment de 2017, qui à cet égard est un vrai moment de fracture par rapport à ça, parce qu'il y a eu une superposition de circonstances et de choix, et ça a été organisé et pensé par certains, il y a eu aussi des circonstances, pour faire que se sont retrouvés au cœur d'une majorité, en plus une majorité très large, des gens qui n'avaient pas le parcours qui leur permettait d'être dans cette dialectique avec un exécutif. Et on a eu à ce moment-là un vrai affaiblissement de l'Assemblée nationale et du Parlement en lien avec une sociologie politique. Donc bref, je reviens sur mon petit propos. Le Parlement, Il fait vivre le pluralisme, il assure la publicité des débats, il fait vivre une forme de proximité, de porosité et d'ouverture à la société pour mener son travail législatif. Le Parlement vote la loi pour faire vivre un contrôle de l'exécutif, normalement, et une évaluation.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Quelques points complémentaires pour dire par contre les empêchements, tout ce qui dans à la fois constitutionnellement dans notre droit mais aussi dans la pratique va venir s'opposer à ça et limiter ça. On évoquait le nombre de députés, enfin je l'ai évoqué le nombre de députés tout à l'heure. Il y a eu, il y a quelques années, à l'initiative d'Emmanuel Macron, un projet de réforme constitutionnelle qui visait à limiter le nombre de parlementaires et notamment de députés. Alors, c'est à bonne presse, hein, ce genre de projet. Si on prend la chose de manière, voilà, encore une fois, très pratique, d'un point de vue de l'organisation et du fonctionnement d'une assemblée. Très concrètement, si vous limitez le nombre de députés, en réalité, ce que vous allez faire par rapport à des caractéristiques qu'on vient d'évoquer, vous allez fortement limiter l'expression du pluralisme en réalité, parce que vous savez que l'Assemblée est découpée en groupes parlementaires. Tous les députés ont la faculté, ce n'est pas une obligation, mais de s'affilier, de créer des groupes parlementaires. Il faut un minimum 15 députés pour former un groupe parlementaire. Les groupes parlementaires, ils apportent deux choses très importantes aux députés qui vont s'y affilier. Il va y avoir des éléments de procédure. Il y a des droits procéduraux qui sont liés au groupe et pas aux députés individuellement. On parlera du droit d'amendement, qui est un outil quotidien du travail parlementaire. Ça, c'est un droit qui est attaché à chaque député. J'évoquais la mission de contrôle, par exemple, ou d'enquête. Il y a, par exemple, un droit de tirage attaché à chaque groupe parlementaire d'opposition. C'est-à-dire, chaque groupe parlementaire d'opposition ou minoritaire a, une fois par session, le droit, de fait, d'obtenir une commission d'enquête. Ça, c'est pas un droit attaché à un député individuellement. Il y a des temps de parole qui sont liés au groupe et pas aux députés. Donc, se réunir en groupe parlementaire, ça va donner de la force au travail parlementaire que va mener. D'autant plus que les groupes juridiquement sont des associations loi 1901 auxquelles l'Assemblée va attribuer des moyens financiers. Ce qui fait qu'un député affilié à un groupe va pouvoir bénéficier de ses propres collaboratrices et collaborateurs. Mais il va aussi avoir, du coup, le soutien de collaboratrices et collaborateurs du groupe parlementaire dans lequel il s'inscrit, ce qui va apporter une force de travail supplémentaire. Ce qui n'est pas trop quand on compare les moyens du Parlement aux moyens du pouvoir exécutif. Un ministre, il n'est pas tout seul avec son conseiller ou sa conseillère au banc des ministres quand il fait face à l'Assemblée. Il a derrière lui, la Constitution indique bien que le gouvernement dispose de l'administration. Le gouvernement, un ministre, va pouvoir solliciter des dizaines, voire parfois des centaines de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires des administrations centrales pour préparer un projet de loi, des choses comme ça. Donc il y a aussi dans ce déséquilibre, un déséquilibre de moyens logistiques et financiers entre l'exécutif et le législatif. Donc la question du nombre de députés, j'y reviens, pourquoi ça affaiblirait le pluralisme, c'est que quand vous avez 15 députés, c'est nécessaire et c'est suffisant pour faire un groupe. En réalité, c'est totalement insuffisant pour faire face à la masse du travail parlementaire. Moi, quand j'ai vécu la situation de 2017 où le groupe socialiste est passé d'à peu près 300, un peu moins de 300 à la fin de la législature députés, mais j'avais connu le PS d'opposition d'avant où il y avait 150, un peu plus de 150 députés, à un groupe d'à peine 30 députés, alors indépendamment du choc politique que ça peut représenter, à 30 députés, vous ne faites pas face à la masse du travail parlementaire. Vous y faites face, mais en vérité, vous n'avez pas le temps de vraiment travailler la totalité des textes de manière qualitative et tout ça. Donc, si vous diminuez le nombre de députés au total, vous allez certes réduire la taille du groupe majoritaire, mais lui, à la limite, qu'il soit 300 ou 250, vous allez même presque lui faciliter la vie, parce qu'il a plus un problème de gestion de sureffectifs ou des choses comme ça. Mais vous allez aussi mécaniquement réduire la taille des groupes d'opposition, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, peu importe. Mais en réalité, c'est ces groupes d'opposition, ces groupes minoritaires, qui vont être les plus mis en difficulté par une réduction. On ne vote pas avec des pourcentages de députés. À la fin, c'est des pourcents. Mais en réalité, le travail, il se fait avec des personnes. Donc si vous réduisez le nombre de députés, attention à la taille des groupes, notamment d'opposition et minoritaires. Vous pouvez vraiment mettre un gros coup à l'expression du pluralisme, qui, encore une fois, est une des fonctions du Parlement. dans ce travail-là. Autre élément que vous allez toucher, si vous touchez à l'élément du député, on évoquait la question de la proximité, de l'accessibilité du Parlement par l'intermédiaire des députés. Si vous réduisez le nombre de députés, vous allez augmenter la taille des circonscriptions, et par définition, si en plus vous mettez une dose de proportionnelle là-dedans, et que vous avez un panachage entre des députés élus sur une liste, donc du coup, indépendamment d'un territoire, même s'ils sont sur une circonscription départementale ou des choses comme ça, et que vous gardez encore moins du coup de députés élus au suffrage universel direct, la taille des circonscriptions va d'autant plus augmenter et vous perdrez ça. Et autre effet à avoir en tête, c'est que là vous allez reboucler avec la perte de pluralisme, c'est qu'en étendant la taille des circonscriptions, vous diluez les spécificités électorales. Or on sait que c'est aussi par sociologie électorale que certains mouvements minoritaires ou voilà, arrivent à exister. Donc, par exemple, plus vous aurez des circonscriptions grandes, plus leur vote va tendre vers le vote majoritaire. Et donc, vous avez un effet mécanique, en plus de faire baisser ça. Donc, nombre de députés, ce n'est pas un petit sujet, même sur l'enjeu démocratique, de faire tourner ça. Le nombre de commissions, tout à l'heure, vous parliez de la 4e République. Dans la 4e République, le Parlement, la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, pouvait décider de son organisation interne et des commissions qu'elle créait. La 5e République a été un moment que les constitutionnalistes, les juristes ont appelé un moment de rationalisation, de parlementarisme rationalisé. On est plus dans le rationnement que dans la rationalisation, si on voulait vraiment regarder les choses. Et parmi les éléments qui ont été rationnés, il y a donc le nombre de commissions qui est fixé par la Constitution. Et encore, celle de 2008 a un petit peu élargi. On est rendu à 8, il n'y en avait que 6. Alors certes, il y avait beaucoup de commissions sous la 4e République, une commission des boissons, une commission, voilà, une chose comme ça. En vrai, l'un des sujets, c'était quand même qu'on avait des présidentes, ou présidents en l'occurrence, il n'y avait pas de présidente de commission, qui pouvaient devenir des sortes de ministres bis. C'est-à-dire qu'il y avait un face-à-face entre le Parlement et le gouvernement à travers des face-à-face commission-ministère, parce que souvent il y avait une concordance et des choses comme ça. Une fois que vous réduisez le nombre de commissions à 6, en réalité, vous faites des commissions qui sont sur des champs très larges. Donc vous diluez le champ de compétences d'une commission. Donc, ce qui veut donc dire qu'à l'intérieur même de cette commission, en réalité, les députés vont se subdiviser et se répartir par grands domaines. Vous prenez la commission des lois, dans laquelle vous allez avoir la justice, la police, la sécurité, mais aussi les collectivités territoriales, le champ constitutionnel, des choses comme ça. La commission des affaires sociales, vous avez toutes les affaires sociales au sens de la santé, mais vous allez voir aussi tout le travail, par exemple. Donc vous avez des champs comme ça qui, en gros, on pourrait tout à fait imaginer qu'ils soient traités séparément. Et du coup, ça correspondrait mieux aussi à des champs ministériels. Donc, cette rationalisation, cette limitation du nombre de commissions a été un élément à nouveau où le Parlement s'est trouvé un petit peu sous les ténoirs et on a limité le pouvoir des députés. L'ordre du jour. De quoi parlons-on? De quoi les députés débattent? Et du coup, sur quoi ils peuvent agir? Parce que j'évoquais le droit d'amendement. L'essentiel de la capacité des députés à changer la loi, c'est pas tellement de l'initier, puisque l'initiative parlementaire, ce sont les niches parlementaires, elles sont peu nombreuses, et on peut y faire passer que des textes très modestes, puisque en une journée, chaque groupe va vouloir en faire passer quelques-uns, donc il faut des textes très courts, donc forcément leur emploi. Donc en gros, ce sur quoi les députés peuvent agir d'un point de vue de fabrication de la loi, c'est sur la base des initiatives du gouvernement. Donc c'est via le droit d'amendement. Alors certes, là, il y a un droit très large qui peut aller loin, mais on verra quand même qu'il est limité. Là aussi, la Constitution de la 5e République a limité le droit d'amendement. Mais en plus, faut-il encore qu'il y ait des sujets qui s'y rapportent. Donc, or, l'ordre du jour est essentiellement à la main du gouvernement. Tous les mardis matins se réunit la conférence des présidents, qui va réunir la présidente aujourd'hui de l'Assemblée, donc première femme élue en 2022. En face d'elle, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. C'est pas une obligation, le Premier ministre peut venir, le gouvernement est représenté. Les présidentes et présidents des groupes parlementaires, les présidents de commissions. Et ils élaborent l'ordre du jour des 4 à 6 semaines qui viennent. Mais bon, si vous allez sur le site de l'Assemblée, vous avez un planning de la session ordinaire du premier mardi d'octobre au dernier jour de juin, et vous avez des semaines thématiques. Donc il y a toutes les semaines du budget, Ben ça, c'est le gouvernement en réalité, parce que c'est le gouvernement qui propose un budget et il y a une procédure très spécifique au budget. Et puis après, vous allez avoir des petites journées qui apparaissent de temps en temps, c'est les niches parlementaires. Il y a des semaines de contrôle. Alors là, on est dans la fonction de contrôle, on est dans la fonction d'élaboration de la loi. Il y a des semaines de l'Assemblée, alors dont le statut est en train d'évoluer depuis 2022 et l'absence de majorité absolue, mais qui jusqu'à 2022 étaient en réalité des zones réservées du groupe majoritaire. Et parfois qui lui-même, de manière assez complaisante, refilait des trucs au gouvernement. Donc c'était plutôt le gouvernement qui venait y mettre les pieds parfois dans des mauvaises pratiques. Un ministre avait réussi à faire qu'un député de son groupe majoritaire faisait passer un texte que lui, le ministre, n'avait pas réussi à faire passer dans les arbitrages internes au gouvernement. Et puis il y a toutes les semaines du gouvernement qui occupent, voilà, si vous prenez le budget, les semaines du gouvernement, vous avez à peu près les deux tiers de l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc même dans les sujets qui vont pouvoir être travaillés, le gouvernement a un poids très, très prépondérant. Donc là, à nouveau, c'est un élément qui limite. J'ai évoqué très vite, forcément, du coup, cette limitation, ça fait que l'initiative parlementaire, s'agissant de lois, elle est très réduite. Donc on a entendu dernièrement, il y a eu la niche du groupe socialiste il y a une quinzaine de jours, où là, on a acquis un vrai savoir-faire depuis 2022, parce que, un parlement sans majorité absolue, c'est aussi pour les oppositions un parlement dans lequel on n'est pas forcément minoritaire ad vitam aeternam. C'est-à-dire, il est possible de construire une majorité. Parce que dans l'ancien monde, il faut le reconnaître, les majorités étaient aussi les premiers opposants de leurs opposants. C'est-à-dire que les majorités ne laissaient rien passer de leurs oppositions, ou vraiment très marginalement. À partir du moment où il n'y a plus de majorité absolue, alors certes, ça veut dire que personne n'est minoritaire par définition, n'est nécessairement voué à la minorité. Et on a appris ces dernières années, depuis 2022 et dès 2001, donc on a une niche par an comme chaque groupe en 23, et là cette année encore. Là cette année, on avait 5 textes, les 5 ont été votés. Alors ça a supposé aussi un changement de pratique de chacun. C'est-à-dire que si chacun fait des textes purement identitaires, je vais avoir les voix des socialistes et rien d'autre. Si les Verts font des textes qui ne plaisent qu'aux Verts, ils auront les voix des Verts et point barre. Mais si vous allez sur des sujets, alors du coup, qui sont moins clivants, moins marquants politiquement, et vous allez sur de l'intérêt général, où en gros vous prenez aussi au piège les autres, là vous ne pouvez pas dire non à ça. Regardez, on est sur des sujets d'intérêt général, des choses comme ça. On arrive à aller chercher des majorités. Alors certes, mais ça reste quand même sur des textes qui ne sont pas que symboliques, qui peuvent avoir un vrai intérêt et un vrai impact, mais on est sur des textes à ampleur par contre très faible, parce qu'on est sur des textes qui font un ou deux articles, parce qu'en une journée, si vous voulez faire passer cinq textes, ce sont des textes très courts. Donc on est quand même sur cette limitation. Par ailleurs, le droit d'amendement que j'évoquais tout à l'heure, il est encadré, il est limité. Et il y a deux grandes limites. C'est que vous ne pouvez amender qu'en rapport avec le texte sur lequel vous amendez. C'est-à-dire qu'un député qui aurait travaillé un sujet très important, mais s'il n'y a aucun texte sur ce sujet qui passe dans l'agenda parlementaire, tout ce travail ne pourra pas trouver de débouché. Et puis il y a la deuxième règle, qui est le fameux article 40 de la Constitution, qui fait que les députés, par leurs amendements, ne peuvent pas créer de charges nouvelles. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez changer la loi, mais à condition que ça ne coûte rien. Donc vous imaginez le nombre de dispositions que ça exclut d'office du champ d'intervention des députés. Et puis, si ça ne suffisait pas, le gouvernement, lui, il a des jokers en plus dans son droit. Il va pouvoir légiférer par ordonnance. Donc ça vous a entendu. Alors, cela dit, c'est quand même sous réserve de l'accord du Parlement. Donc, ça suppose quand même que... Mais là aussi, dans l'ancien monde, les majorités avaient tendance à facilement accorder ce droit-là. Je viens de dire qu'il y avait des limitations au droit d'amendement des députés. À l'inverse, le gouvernement a le droit d'amender hors délai. C'est-à-dire que lui, en pleine séance, tout d'un coup, vous pouvez voir un gros amendement qui arrive du gouvernement. Et alors là, pareil, démocratiquement, ça pose plein de sujets, parce que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, alors, je veux dire, moi je la trouve plutôt bonne, la réforme constitutionnelle de 2008, dans beaucoup de ses dispositions, elle a imposé au gouvernement, alors c'était une pratique mais pas nécessaire, mais maintenant d'avoir des études d'impact dans ces projets de loi. Donc c'est un document qui est normé, le gouvernement, qui permet quand même de voir un petit peu le contenu, de tester un peu le contenu du projet de loi. Par ailleurs, le gouvernement doit, vous savez, soumettre son projet de loi au Conseil d'État. Le Conseil d'État, alors on n'a pas toujours l'avis, il n'est pas toujours rendu public. Parfois il l'est, et c'est extrêmement intéressant de l'avoir, mais le gouvernement a ça. Quand le gouvernement dépose hors délai un amendement, et il n'y a pas de limite de taille, il peut quasiment réécrire son projet de loi, il n'y a pas d'étude d'impact, il n'y a pas d'avis du Conseil d'État. Donc le gouvernement, non seulement le Parlement va se retrouver dans une capacité réduite à peu près rien, parce qu'il n'a pas le temps d'analyser l'amendement qui lui est soumis. Mais en plus, le gouvernement a contourné, ce faisant, des obligations qui pèsent sur lui normalement, qui sont encore une fois l'étude d'impact et l'avis du Conseil d'État. Le gouvernement peut faire revoter. Vous attendez parler, le gouvernement a le droit de demander une nouvelle délibération si jamais un vote ne lui a pas plu. Alors, faut-il encore qu'il s'arrange pour qu'éventuellement le second vote lui plaise un peu plus, mais en cas d'absence de certaines personnes, qu'un petit accident de vote, il a le droit de faire revoter. Il y a une procédure de vote bloqué. C'est-à-dire que le gouvernement a le droit de dire, on va écouter, je vais vous dire, on va faire un seul vote, et alors voilà, on va voter sur ça, ça je prends, ça je prends pas, ça je prends, ça je prends pas, voilà. Et c'est à prendre ou à laisser. Je vous fais un package dans les amendements qui étaient en discussion, et le texte, et voilà. Donc c'est tout ou rien. Il l'avait utilisé au moment de la réforme des retraites au Sénat. C'est comme ça qu'il a piégé le Sénat. Il a utilisé ce vote bloqué au Sénat. Et puis le 49-3 qu'on présente plus, hein, qui est bien connu de tout le monde, et avec cette formulation quand même très, très, enfin, très charmante dans la Constitution, qui dit que si le gouvernement, enfin, donc le gouvernement peut enlever sa responsabilité, et si une motion de censure n'est pas adoptée dans la délai, alors le texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité sera considéré comme adopté. On fait comme si. Là, vraiment, les choses sont bien dites. Et petite remarque, hein, enfin, en plus, le gouvernement, au moment où il prononce le 49-3, c'est même pas forcément le texte tel qu'il était en train d'être débattu. C'est-à-dire que le gouvernement va engager le 49-3 sur une version du texte qu'il choisit, qu'il peut écrire, qu'il peut réécrire. C'est-à-dire que tout le travail parlementaire peut être totalement soufflé. Pendant la réforme des retraites alors pas la dernière, mais celle d'avant, celle de 2019-2020, celle qui s'est arrêtée juste avant le Covid. Vous vous souvenez, il y avait déjà à l'époque une réforme des retraites qui, elle, pour le coup, était en débat à l'Assemblée depuis de nombreuses semaines. Philippe est arrivé un samedi après-midi. Fin de partie. Alors il s'est trouvé que les députés de la majorité sont levés, ont fait une ovation debout en 49-3. C'était quand même des images assez surprenantes. Je vous parlais tout à l'heure de la sociologie des députés, la manière dont un député devrait à la fois, certes, défendre ses idées, ses convictions, un gouvernement s'il est dans la majorité, mais aussi faire vivre les prérogatives de son institution au nom justement de l'équilibre démocratique qu'il faut faire vivre. C'était un spectacle assez surprenant. Le gouvernement, voilà, proclame un 49-3, mais le texte, il est sur la version qu'il veut du texte. Donc il n'y a pas de tenue. Bon, dernier truc, je termine, c'est sur les citoyens, justement, et prendre ces trois, j'ai dit un peu les grandes fonctions du Parlement, des éléments de déséquilibre avec les droits et les prérogatives de l'exécutif, et la place des citoyens, notamment, alors, en comparant, parce que avec la Convention citoyenne pour le climat que j'évoquais tout à l'heure. Parce que, bah, pareil, dans la crise démocratique du moment, il y a ces expérimentations de... Est-ce qu'il y aurait d'autres manières d'autres formes, compléter le Parlement, le contourner, le remplacer. Enfin, on a tous les cas. Juste quatre petites remarques, si on prend des éléments du fonctionnement de cette Convention citoyenne pour le climat, qui a été beaucoup étudié. Il y a eu un bouquin de Thierry Pêche, notamment, qui en était l'un des... qui a bien restitué le fonctionnement. Donc moi, je suis basé là-dessus pour comparer entre le fonctionnement de cette convention citoyenne, dont on nous dit que ça peut être un nouveau modèle de délibération qui enrichit la démocratie, dans laquelle les citoyens ont toute leur place, en comparaison avec ce qui existe aujourd'hui. Si je reprends certaines des caractéristiques que j'ai évoquées, je parlais tout à l'heure de la division du corps législatif. C'est-à-dire, nous, notre corps législatif, il y a 577 députés. Ils se répartissent en groupes parlementaires. Et après, ils sont répartis en commissions. C'est-à-dire qu'il y a une division du travail dans le corps législatif. Historiquement, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été de cette manière-là que nos députés ont été organisés. Les groupes parlementaires se sont structurés dans le courant de la Troisième République. Fin du 19e, début du 20e, c'était une répercussion progressive de l'émergence des partis politiques qui se structuraient à ce moment-là. Mais avant cette phase-là, les députés étaient répartis de manière aléatoire tous les mois dans ce qu'on appelait des bureaux. Donc il n'y avait pas d'appartenance partisane, où elles étaient faibles, elles étaient moins fortes qu'aujourd'hui, et les députés étaient répartis par bureau. Et s'il y avait un projet de loi, les bureaux l'examinaient, et ils allaient chaque bureau allait nommer un, deux ou trois députés qui allaient composer une commission spéciale pour examiner ce projet de loi. Commissions spéciales qui existent toujours aujourd'hui, mais qui sont une trace de ça, mais qui sont l'exception maintenant. Aujourd'hui, on a des commissions permanentes. Donc bref, on a une division du corps législatif. Nous, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on dit dans notre système représentatif? On dit que chaque député représente la nation. chaque député représente toute la nation. Un député n'est pas représentant de ses électeurs, pas même de sa circonscription, il ou elle est représentant de toute la nation. Alors c'est une fiction, c'est un récit, c'est une manière de raconter les choses. Si je mets la Convention citoyenne pour le climat à côté, on a composé une convention de 150 citoyennes et citoyens sur un mix de... Enfin, c'était un système où chacun pouvait y postuler, il y avait du tirage au sort, et en même temps, il y avait un algorithme, enfin, pardon, mais il y avait un panachage, parce qu'on a voulu faire une représentation miroir de la société. C'est-à-dire qu'il y avait autant de femmes qu'il y a de femmes dans la société, autant de femmes, la proportion, les catégories d'âge, les zones d'habitation, rurales, urbains, périurbains et tout ça, les niveaux d'études, enfin voilà. Il y avait, alors avec un panel de 150, c'est un peu grossier, mais il y avait cette tentative d'avoir un miroir sociologique de la société française. Alors certes, mais alors si je reprends cette question de la division du corps législatif, nous, dans notre système, on dit chaque député représente toute la nation. Quand j'ai une commission des lois où il y a 63 députés, elle représente autant la nation que les 577, puisque chaque député représente toute la nation. Ce qui compte dans notre système, c'est de représenter, elles vont être composées à proportion des groupes parlementaires. Parce que dans notre représentation politique, c'est les groupes parlementaires qui viennent refléter le résultat des élections. Voilà. Donc, je maintiens mon récit de représentativité dans la division du corps législatif. Si mon récit de représentativité, c'est de dire j'ai constitué une assemblée qui est le miroir de la société française, parce qu'elle est composée de autant de femmes que d'hommes. La Convention citoyenne pour le climat, elle n'a pas pu échapper à la division du travail. Elle s'est divisée en groupes. Alors ça ne s'appelait pas des commissions, il y a eu des groupes de travail. Mais quid de la représentativité dans cette logique-là, dans ce récit-là, de ces groupes de travail ? Forcément, je perds ma représentativité. Je ne la maintiens pas. Je ne peux pas retrouver dans mon groupe de travail, puisque c'est les 100. La représentativité, c'était les 150. C'est ça le miroir de la France. À partir du moment où je prends un bout du visage, un bout de la France, je perdais mon récit. Donc ça pour dire que... C'est pas pour dire que c'est pas bien. Hein. C'est pour dire, si on compare ce type d'institution à ce que fait l'Assemblée et au type de représentativité sur lequel c'est fondé, ça interroge cela. On n'a pas évoqué la déontologie des députés. Si on cherche à se demander, mais au fond, il y a des procédures, il y a des règles, on sait comment ils sont élus, ils siègent, ils se répartissent par groupe, et ça, mais au bout du bout du bout, c'est quoi le cœur qui définit le mandat du député ? Quand on regarde, il y a une règle qui s'impose à tous, et elle est dans la Constitution, elle est dans le règlement, elle est dans le code de déontologie, c'est l'indépendance. Vous savez qu'il n'y a pas de mandat impératif, c'est-à-dire que les députés ne peuvent pas être tenus par un engagement, par une... Il y a une lutte contre les conflits d'intérêts. Être dans un conflit d'intérêts, ce n'est pas être quelqu'un de malhonnête. On peut tous se trouver en conflit d'intérêts. C'est une situation, un conflit d'intérêts. Donc tout le monde peut se trouver en conflit d'intérêts. Parce que donc il y a une prévention des conflits d'intérêts. Et il est demandé de prévenir les conflits d'intérêts parce que le sujet, c'est que chaque député exerce son mandat dans la plus grande indépendance possible. Donc voilà. Donc il y a des règles, il y a des contrôles, il y a des choses comme ça, des déclarations d'intérêts en début de mandat, en fin de mandat et tout ça. Dans la Convention citoyenne pour le climat, c'est presque l'inverse. On a considéré qu'en allant chercher les gens par leur situation, ça faisait l'essence de leur représentativité. Certes, mais si je prends la question du climat, et en plus la question du climat, on peut imaginer que si on en est là, c'est notamment que nos institutions ont été particulièrement perverties dans les décennies passées par des intérêts très puissants, des industries de l'hydrocarbure, de tout un tas de choses, qui ont pesé, qui ont perverti un certain nombre de processus démocratiques. Donc, c'est pour ça probablement, enfin, ça fait partie de l'héritage qu'on a à gérer du problème climatique. Je fais une convention citoyenne pour le climat. Certes, j'ai une représentativité, encore une fois, homme, femme, âge, vraiment tout ça. Mais qu'est-ce que je sais du fait que le mari de cette dame ou que le frère de ce monsieur travaille chez Total ou ainsi de suite, enfin, on n'en savait strictement rien. On a fait comme si il y avait cette idée que, parce que ce sont des citoyens, il y a une forme de pureté, ils peuvent pas être touchés par un conflit d'intérêts. Mais d'où ça vient cette histoire-là ? On projette de l'impureté à tombeau ouvert sur les élus et on projette une pureté totalement illusoire sur les citoyens. Enfin, bien évidemment, il est tout à fait normal que dans ces 150 personnes, il y en avait qui, à un moment donné, ont dû se retrouver dans une sorte de conflit d'intérêts dans ces débats-là. On n'en sait strictement rien et aucune prévention n'a été assurée. Quatrième point, l'autonomie du pouvoir législatif. Je ne vais pas trop évoquer, mais... Pendant très longtemps, alors là aussi la cinquième a bien verrouillé le truc, mais les chambres parlementaires étaient totalement libres dans l'écriture de leur règlement intérieur. Maintenant, c'est vraiment leur procédure, leur règle. J'évoquais tout à l'heure le nombre de commissions, choses comme ça. Là, maintenant, c'est verrouillé. Il y a le Conseil constitutionnel qui est juge de la constitutionnalité du règlement des assemblées. Toujours est-il qu'une assemblée, elle peut faire évoluer son propre règlement. Donc, c'est-à-dire qu'elle se donne à elle-même ses propres règles, son fonctionnement. Je vais évoquer un point. Alors, j'évoquais la question de la publicité des débats. La réforme de 2008, si je suis trop long, vous me dites. La réforme constitutionnelle de 2008, elle a changé un truc qui a fait qu'avant, quand un projet de loi passait d'un examen en commission à la séance publique, quand on démarrait l'examen en séance publique, on repartait du texte initial du gouvernement. C'est-à-dire que le travail de commission, c'est un travail pour s'échauffer en quelque sorte. Mais tout était effacé, on repartait du travail du gouvernement. Depuis la réforme de 2008, arrive en séance publique le texte tel qu'amendé par la commission. Donc le travail de commission, il a déjà modifié la loi. L'Assemblée nationale a dit, mais alors ça veut dire que le travail de commission, il participe vraiment du travail législatif maintenant. Donc il faut le rendre public. Donc les commissions, les travaux de commission, le Sénat n'en a pas tiré la même conséquence. Au Sénat, il n'y a pas de publicité des débats de commission par principe. C'est une exception. Donc ça pour dire, voilà, les deux chambres n'ont pas fait la même interprétation d'un truc. Donc chaque chambre peut écrire son règlement, vous voyez, sur des points qui ne sont pas anodins. Hein. La publicité des débats n'est pas la même au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Pourquoi je dis ça, c'est que voilà, il y avait une autonomie du corps législatif dans la constitution de ces règles. Quand on regarde le fonctionnement de cette convention citoyenne pour le climat, est-ce que les 150 citoyens ont eu à leur disposition une administration, ont eu un moment pour concevoir leur manière de s'organiser, ou ont-ils été les objets, les sujets d'une expérience conçue par d'autres? Quand on regarde l'infrastructure autour, ils ont plutôt été les sujets d'un dispositif créé par d'autres, dans lesquels ils ont... Voilà. Et dernier point, la publicité des débats, que j'évoquais comme un point extrêmement essentiel. Il n'y avait pas de publicité des débats de la Convention citoyenne pour le climat. Alors on nous a dit, c'est parce que certaines citoyennes et citoyens pourraient être gênés de s'exprimer publiquement, ou de savoir que ça va être vu, ou des choses comme ça. À titre perso, je peux l'entendre, mais... Je suis intimement persuadé, parce que quand on voit les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, honnêtement, il n'y a rien qui n'était pas déjà sur la place publique, ou qui n'était même pas déjà dans les tuyaux de travaux parlementaires et tout ça. Moi, je pense que l'énorme plus-value, c'était probablement dans la délibération entre citoyens. C'est quels avaient été les arguments, les cheminements, les évolutions de position des uns et des autres. Et c'est précisément l'élément auquel on n'a pas accès dans cette restitution. Donc ça pour dire que je trouve que c'est intéressant aussi de comparer et de challenger ce genre d'expérience. Elles peuvent apprendre des choses à l'Assemblée, je pense qu'il y aurait des choses à en retirer, mais à l'inverse, il ne faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain et se dire le Parlement tel qu'il fonctionne, ça ne fonctionne pas bien, c'est lent, croire tous les préjugés qu'on a dessus, ou tout ce qui est dit, et ne pas avoir tout ça. Donc je vous avais promis de ne pas répondre à la question, que ce n'est pas un cours et ce n'est pas magistral.
Même audio, une mémoire sonore.